Radio Okapi.
Sept personnes tuées, d'autres grièvement blessées et d'autres encore portées disparues, c'est le bilan d'une incursion hier des ADF à Idohou, village situé à 33 km de Komanda Centre dans le territoire d'Irumu en Ituri. Les victimes sont des femmes et des enfants partis chercher à manger dans la forêt. Les opérations d'enrôlement des électeurs se poursuivent au Maniema et la clôture est prévue à la fin de cette semaine, mais les requérants se plaignent de plusieurs difficultés, des longues marches de plusieurs jours pour atteindre le centre d'enrôlement ou encore l'insuffisance des machines. L'invité de ce journal, c'est le professeur Léon Kiaboba, deuxième vice-président du Conseil économique et social. Il s'exprime sur les enjeux de la session ordinaire d'avril que cette institution constitutionnelle et consultative va ouvrir le samedi 1er avril prochain. Bonjour à tous, au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Sept personnes ont été tuées au cours d'une incursion hier par les éléments des ADF au village Idohou, à 33 km de Komanda Centre, au sud du territoire d'Irumu en Ituri. Selon des sources locales, les victimes composées des femmes et des enfants en quête des vivres ont été surprises dans la forêt par ces rebelles. La société civile précise que ce bilan est encore provisoire car plusieurs personnes ont été blessées et d'autres portées disparues. La société civile demande aux autorités militaires d'étendre les opérations conjointes dans cette région pour démanteler l'ennemi. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Selon des sources locales, ces rebelles fouillaient l'assaut des forces conjointes FARDC armées ougandaises qui ont intensifié depuis la semaine dernière des opérations dans la région de Tchabi et Boga au sud d'Irumu. C'est après une tentative d'attaque lundi de ces groupes armés contre un convoi de véhicules sur le tronçon Komanda Luna dont les bilans étaient d'un taximen tué. Des sources locales de sécurité, ces inciviques cherchent à tout prix à occuper leurs anciens bastions sur les collines Israël, CEI ainsi que Boutani, proche de la rivière Ituri. Ils ont abattu sept civils, tous des peuples autochtones pygmées dans les villages Idohou, précise le coordonnateur de la société civile. Dieudonné Malangaï déplore cette énième attaque contre les paisibles populations sans moyens de défense. Il ajoute que ces bilans pourraient s'alourdir car les recherches d'autres corps se poursuivent dans cette zone qui est temporairement inaccessible. Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri indique que les opérations militaires sont en cours pour démanteler cette force négative. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au nord Kivu, une accalmie relative s'observe dans la matinée de ce mercredi dans la zone des combats qui oppose les rebelles du M23 et les FARDC et les forces d'autodéfense dans le territoire de Masisi. Après l'occupation de Mweso hier, ces rebelles ont également pris le contrôle des Bihambwe et ses environs avant de se retirer pendant la nuit de la cuvette des Bihambwe pour s'installer sur les collines des Kasizi, surplombant la cité. Ce qui met en danger encore une fois la cité minière de Rubaya à quelques kilomètres seulement de là, affirment nos sources. Le point avec vous, Blaise Shindani Kambala.
Plusieurs sources locales affirment qu'après avoir pris le contrôle de Biyambwe, les rebelles du M23 ont systématiquement pillé les biens de la population ainsi qu'un nombre important du bétail avant de se retirer sur les collines de Gaziza, 3 km de la cité. Depuis ce matin, ajoutent nos sources, aucune force n'est encore présente dans la cité de Biyambwe. Les FARDC et les forces d'autodéfense sont également positionnées sur d'autres collines du côté groupement Mufuni Kibabi, tandis que les rebelles sont en face du côté Matanda, renseigne la société civile. Cette situation menace également la cité minière de Rubaya, située à quelques kilomètres de Biyambwe, et inquiète beaucoup la population de la région. La population de Biyambwe s'est déplacée vers Rubaya, Katale, Luchebere, Masisi Centre et Boabou. Par ailleurs, sur l'axe Mweso-Kichanga en groupement Bachali-Mokoto, la situation est relativement calme ce matin, mais incertain. Les rebelles renforcent leur position dans les entités occupées récemment, indiquent les sources locales.
Dans le territoire de Beni, la dernière école du groupement de Banande Kainama qui avait été délocalisée à Tchabi et Boga en Ituri vient de rouvrir ses portes dans ce groupement. C'est après la calmie observée à la suite des opérations militaires des forces conjointes FARDC-UPDF dans la région. Les élèves, les enseignants ainsi que les parents sont de retour également dans le milieu. Une satisfaction pour le chef d'antenne Sekope Oicha Iringeti Kainama. Bienfait Baraka est au micro de Marc Marofimbo.
Les activités scolaires marchent un peu bien. La dernière école qui nous sépare avec la province de l'Ituri, Epe Nazarete, a démarré ici récemment. vu la multiplicité des attaques sur le tronçon Tchabi-Kainama. Nous remercions vivement la coalition FARDC et UPDF qui sont en train de mener, conformément à notre volonté, à la volonté du chef de l'État, les activités, parce que la population du groupement Boyo, voisins de notre groupement, ont commencé à regagner leur domicile, notamment à Boyo, et cela nous rassure vraiment la sécurité. Et les activités scolaires marchent un peu mieux par rapport aux années passées. Certains ont commencé à regagner, notamment ceux qui sont allés à Nitouri et ceux qui sont allés à Nobile, ils ont commencé à regagner parce qu'il y a une accalmie qui s'observe de part et d'autre, surtout de l'est à l'ouest.
Signalons qu'une dizaine d'écoles du groupement de Banan de Kainama avaient été délocalisées à Tchabi et Boga en septembre 2021 à la suite des attaques des ADF dans cette région. Dans la province de la Tchopo, le second militaire grièvement blessé hier lors du cambriolage d'une chambre froide par des hommes en tenue civile et armée a succombé à ses blessures dans la soirée, ce qui porte à deux le nombre des militaires FARDC décédés à la suite de cette attaque. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver le malfrat en cavale. Le point avec Jacques Moukonkolé.
En dépit des soins intensifs auxquels il a été soumis, ce militaire n'a pas pu survivre, regrette un officier de la police urbaine. Celui-ci précise qu'il a beaucoup saigné parce qu'il a été blessé grièvement. Par ailleurs, parlant des biens volés, la même source rapporte que lors du cambriolage, ces hommes armés ont emporté une somme de plus de 20 000 dollars américains et trois téléphones Android de la propriétaire de la chambre froide. Chez la seconde dame, voisine de la première cité, le montant de l'argent pris n'est pas encore déterminé. Toujours selon la police, une carte d'électeur d'une personne autre que le malfrat, victime de la justice populaire hier, a été retrouvée dans la poche de cette dernière. La police dit avoir mis la main sur le propriétaire de cette carte et l'a déférée devant la juridiction compétente pour raison d'enquête. Et pendant ce temps, le commissaire supérieur principal, Floribert Kingombe, rassure la population que les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver tous les autres criminels qui courent encore dans la nature. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, deuxième jour ce mercredi de l'audience publique au tribunal de grande instance de Kalemie et qui se tient en chambre foraine à Kongolo. Des sources à Kongolo rapportent que ce procès oppose le ministère public à une dizaine de prévenus poursuivis notamment pour viol, assassinat, vol qualifié et coups et blessures. La Fondation Panzi apporte un appui financier pour l'organisation de ce procès. Paula Munanga.
Les audiences publiques se déroulent devant le bureau de la police de Kongolo Centre. Ce mercredi, le tribunal poursuit avec l'instruction des dossiers. Certaines sources sur place signalent qu'au cours de l'audience de ce mercredi, le ministère public a demandé l'acquittement d'un prévenu poursuivi pour viol sur mineur. Et pour cause, la victime a déclaré devant le tribunal qu'au moment de l'acte, elle était majeure, âgée de 18 ans. Cette intervention a provoqué des cris de la foule présente à l'audience. Pour le président à l'intérim du tribunal de grande instance de Kalemie, il était nécessaire pour le tribunal de se déplacer à Kongolo afin de traiter des causes qui sont pendantes. La Fondation Panzi appuie l'organisation de ces procès à travers son projet Prévention et réponse aux violences basées sur le genre. Elle a facilité le déplacement du tribunal de Kalemie à Kongolo. Il est prévu que les audiences se tiennent pendant 12 jours. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Province du Maniema, sauf imprévu, la CENI clôture l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ce samedi 1er avril. Cependant, sur le terrain, il s'observe un grand engouement des populations et les plaintes continuent aussi. À Kailo, par exemple, il y a des populations qui font deux jours de marche pour s'enrôler et cela s'ajoute l'insuffisance des machines. Edimo Kesumaili, natif de Kailo qui revient de ce coin, plaide auprès de la CENI pour un autre moratoire même d'un mois. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous avions constaté, par exemple, l'insuffisance des machines dans les cailles profondes. Par exemple, dans les secteurs de Balanga, vous trouverez une seule machine qui doit couvrir tout un groupement. Et au sein des groupements, vous trouvez plusieurs localités. Et le deuxième constat, c'est la distance entre les centres d'enrôlement et les localités. Vous verrez, par exemple, la population qui doit effectuer au moins deux jours pour se faire identifier et s'enrôler. C'est le cas, par exemple, dans le secteur de Wasongola, entre Kachwale et Nyonga. Et troisièmement, le constat est aussi relativement amère sur la nouvelle carte d'électeur qui est presque de mauvaise qualité. Les identités s'effacent et même la photo, la carte d'électeur devient comme une petite carte de poche. Voilà pourquoi, en tant que notable du territoire de Kailo, 1. Nous demandons un moratoire, une prolongation même de 1 mois pour que les processus soient inclusifs. De 2. Pour le cas des insuffisances des machines, qu'on ajoute des machines pour permettre à ce que la population ne puisse pas en souffrir. Nous venons de constater que certaines populations ici des territoires de Kailo, au lieu de se faire enrôler dans leur fief, ils sont obligés de venir parfois à Kindu.
La place de la femme au sein de la police nationale congolaise était au centre des débats sur le projet d'autonomisation intitulé « Policiers au féminin », activité organisée ce mercredi à Bukavu, au sud Kivu, par la police des Nations Unies et la police nationale congolaise, et ce dans le but de promouvoir la femme au sein de la PNC. Cette activité intervient dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Rachel Kiesembangu.
Promouvoir la femme, son intégration au sein de la PNC, le respect qu'on lui doit et le traitement égalitaire, tel est l'objectif de cette activité. Jean-François Vézina, chef d'équipe de police spécialisée en violence sexuelle basée sur le genre, UNPOL SPT.
C'est une activité d'empowerment féminin, donc rehausser la place de la femme au sein de la police nationale du Congo. C'est vraiment promouvoir la place de la femme au sein de l'organisation, l'intégration, le respect qu'on doit à la femme et le traitement égalitaire qu'on doit leur accorder.
C'était une occasion pour sensibiliser les femmes policières afin que celles-ci sachent comment améliorer leur travail et se comporter en tant que femmes policières professionnelles. Major Ursule Karumba, commandant protection de l'enfance, section de Bagira.
Nous avons voulu renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent continuer à rendre un service bien équitable. C'est ainsi qu'on a dit aujourd'hui, nous allons nous rencontrer afin que chacune puisse faire des perspectives par rapport à sa qualité et à sa fonction.
L'autonomisation policière au féminin revêt une importance capitale afin que les femmes policières congolaises se rendent compte de leur potentiel pour développer leur leadership. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Le ravinement, une autre cause de déplacement interne des populations à Kinshasa, surtout en période de pluie. Dans plusieurs quartiers de la ville-province, des ménages perdent leurs habitations du fait des érosions qui les emportent sous un regard impuissant face au degré dévastateur des eaux de ruissellement non canalisées. Ces eaux en lessivant et en emportant d'importantes masses de terre entraînent également tout investissement se trouvant sur leur passage. Illustration dans le quartier Mbala, commune de Selembao, à travers ce reportage que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Le malheur dans ce quartier longeant la nationale numéro 1 menant de Kinshasa vers Matadi dans sa partie comprise entre l'UPN et la cité verte s'aggrave en février 2019.
Les caniveaux étaient bouchés et un monsieur qui avait jeté ses moellons là-bas et cela a causé un problème. Toute quantité de l'eau qui venait des télécoms UPN s'est déversée à notre côté là-bas. Alors cela a créé une grande érosion jusqu'à ce que la population ait zappé de comment souffrir. Le président est au courant de ça et nous a même promis qu'il y aura des travaux qui seront faits d'une manière générale.
Progressant à chaque pluie donc à vive allure, plus d'une centaine de ménages se retrouvent réfugiés dans des familles d'accueil dans les zones non menacées par des têtes d'érosion ou carrément quittent le quartier. Témoignage d'une habitante.
Il y a des maisons, des trucs déjà, il y a des familles qui ont déjà quitté, il y a des vies humaines qui sont parties. Mon chauffeur est parmi aussi les gens qui sont partis. Leur parcelle est partie aussi dans le ravin et pour le moment, il s'est réfugié quelque part. Sa famille est éparpillée. Le ravin est en train de détruire, je peux dire, tous les quartiers. L'OVD fait la descente presque chaque fois, mais rien n'est fait jusque-là.
2 ou 3 mois sont déjà passés depuis que l'OVD, Office des voiries et drainage, a rassuré, souligne les habitants du quartier, de la signature d'un contrat avec l'entreprise chinoise Crackwit pour des travaux sur ce site érosif. Mais hélas, regrette-t-il, même pas une bêche, encore moins un engin, ne sont visibles depuis.
Actualité internationale. L'Inde a annoncé ce mercredi que l'un de 8 guépards déplacés de Namibie avait donné naissance à 4 petits 2 décennies après l'extinction de l'espèce déclarée en 1952 dans ce pays d'Asie du Sud. Selon les médias indiens, un 2e guépard de Namibie devrait mettre bas prochainement. 8 guépards namibiens ont été réintroduits en Inde l'an dernier. Au début de cette année, 12 autres guépards sont venus d'Afrique du Sud grossir le premier contingent. L'annonce de la naissance des 4 petits guépards intervient quelques jours après la mort l'incident des guépards namibiens dans le parc national de Kuno, une réserve naturelle située à 320 km au sud de New Delhi, victime d'une insuffisance rénale. Le guépard asiatique est une espèce officiellement en extinction en Inde depuis 1952.
L'invité.
Notre invité est le professeur Léon Kiaboba, deuxième vice-président du Conseil économique et social. Il s'exprime sur les enjeux de la session ordinaire d'avril que cette institution constitutionnelle et consultative va ouvrir le samedi 1er avril. Il explique aussi que la situation socio-économique actuelle ne laisse pas indifférente cette institution. Professeur Léon Kiaboba s'entretient avec Alain Irung.
Professeur Léon Kiaboba, bonjour.
Bonjour, monsieur Irung.
Professeur, le samedi 1er avril 2023, le Conseil économique va ouvrir sa session d'avril. Quels peuvent être les enjeux autour d'une telle session?
Le premier enjeu, parce que je dois revenir peut-être à l'organisation du Conseil. Le Conseil, dans son organisation, tient deux sessions par an. La première session, c'est celle qui va commencer du 1er avril jusqu'au 1er juin, et la deuxième du 1er octobre jusqu'au 1er décembre. Celle-ci, celle qui va commencer samedi prochain, c'est une session essentiellement budgétaire. Comme nous sommes financés par les trésors publics, nous devons préparer les budgets, avoir le temps de pouvoir les soumettre au Parlement qui va être en session prochainement, pas dans cette session-ci. Donc, les observations doivent être prêtes et donc cette session, c'est une session essentiellement budgétaire. Mais, au-delà du budget, le Conseil va s'occuper d'autres matières. Alors, pour cette session, des avis qui étaient amorcés à la session d'octobre, mais qui n'ont pas été adoptés formellement, il y en a. Ce sont les avis suivants, il y en a 6. Un avis, et vous remarquerez que le Conseil revient sur ces thématiques à chacune de ces sessions, c'est sur l'éducation. Et cette fois-ci, nous allons adopter formellement un avis intitulé « Les futurs de l'éducation et l'éducation du futur ». Premier avis. Deuxième avis, nous allons adopter formellement un avis sur l'évaluation du revenu du travail. C'est une réflexion que le Conseil fait, qui est basée sur les revenus et la qualité de l'emploi. Troisième avis, social aussi, c'est sur la moralisation de la société congolaise pour une meilleure protection de la jeunesse.
Professeur, deux questions d'actualité également, c'est la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC avec cette agression du Rwanda par son bras armé le M23. Il y a également sur le plan économique la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, notamment le dollar, et la situation socio-économique pour plusieurs Congolais va de mal en pis. Est-ce que le Conseil économique et social a un regard sur ces aspects-là aussi?
Tout à fait, hein. Il y a des questions ou des analyses que le Conseil fait qui ne sont pas forcément coulées en termes d'avis. Le Conseil peut faire une note, le Conseil peut faire un rapport. Alors, pour la question de la sécurité, c'est une question d'actualité, mais la sécurité comme telle n'entre pas dans les attributions du Conseil. Mais du moment qu'il y a des implications économiques, là, le Conseil peut dire quelque chose. Et je viens de vous dire qu'il y a une étude sur le processus de la décentralisation, parce que on ne peut pas parler de ça sans évoquer des questions sécuritaires. Donc c'est un peu lié. Et donc on ne peut pas dire que le Conseil ne voit pas ou n'écoute pas ce qui se passe autour de lui. Non, si, ça intéresse le Conseil. Question économique. Vous avez évoqué question économique. Je vous ai donné au moins 2, enfin même 3. Hein. Il y a plusieurs matières qui touchent à l'économie. J'ai parlé de l'intermédiation financière locale pour pouvoir, n'est-ce pas, autofinancer l'économie. Nous avons un autre avis de la fois passée qui va dans le même sens sur l'actionnariat. Donc ça, c'est la session d'avis. C'est un avis qui est déjà publié. Donc vous pouvez voir là-dessus. Alors, l'économie touche plusieurs aspects. Il y a un avis, par exemple, que nous avons déjà, dont on a parlé la fois passée, c'est sur la régularisation de la circulation routière. Il y a des aspects économiques là-dessus, donc on ne peut pas dire que le Conseil ne fait pas des analyses qui touchent à ces aspects, c'est sa mission.
Et pour terminer, professeur, il y a certains Congolais qui pensent que le Conseil économique, c'est une institution purement budgétivore, qui ne vaut pas la peine et qu'il faut supprimer. Qu'est-ce que vous leur dites?
Je comprends, mais c'est peut-être, permettez-moi l'expression, une question d'ignorance. Tout simplement, les gens ne savent pas ce que le conseil fait et ce que le conseil représente et ce que le conseil coûte. Et donc dire que c'est une institution bidiotivore, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et c'est peut-être des gens qui ont d'autres intérêts qui tiennent ce genre de langage. Le conseil, c'est une institution citoyenne. C'est une institution constitutionnelle.
Professeur Léon Kiaboba, je vous remercie.